Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est une discussion en autogestion. Et on va s'auto-modérer. Ça sera une discussion sans modération pendant une heure uniquement sur le thème de défendre la bibliodiversité. Qu'est-ce que la bibliodiversité? On a dit qu'on allait commencer par ça, comme si on s'était bien préparé. La bibliodiversité, c'est donc la diversité des livres, des éditeurs, des formats, des langues et des idées. C'est aussi un écosystème, c'est une chaîne d'acteurs dont tous les maillons sont interdépendants. Donc pour commencer à développer cette question, on va tous se présenter nous-mêmes, en commençant par le début de la chaîne du livre, en commençant par les autrices et les auteurs, donc en l'occurrence une autrice, Maïté Bernard, donc je te laisse te présenter.
Bonjour, donc je suis autrice pour les ados et pour les adultes. On plaisantait tout à l'heure avec Aude, donc de la librairie du Chameau Sauvage, parce qu'elle a deux de mes livres, enfin vous avez deux de mes livres sur son stand, et on plaisantait, enfin à moitié sérieusement et à moitié en plaisanterie, parce que un de ces livres-là est un de mes pires échecs commercialement, et l'autre est un semi-succès. Donc ça représentait bien ce qui peut arriver dans une carrière, une longue carrière d'autrice. Et je suis aussi documentaliste dans un collège de Toulouse, dans le nord de Toulouse, au-dessus de Bordeaux-Rouge, donc dans ce qui est qualifié comme des endroits difficiles, on va dire. Voilà.
Moi, j'ai une petite casquette d'auteur aussi, alors ça fera une transition. Oui, alors moi j'ai monté il y a 15 ans une imprimerie associative et artisanale dans le Lot qui s'appelle l'Imprimerie Trace. Donc ça c'est pour la partie imprimerie. Et j'ai aussi une petite maison d'édition depuis 14 ans qui s'appelle Super Loto Édition, qui est une maison d'édition plutôt axée images, bandes dessinées. Il y a aussi des affiches, des cartes postales et des choses comme ça. Et puis, évidemment, au sein de cette maison d'édition, il arrive que je fasse des choses que j'écris moi-même ou que je... Enfin, des idées que j'applique moi-même. Donc voilà, il y a un peu triple casquette. Je suis aussi un petit peu commissaire d'expo, tout ça. Bon, bref, mais ça, c'est tout autour du métier d'éditeur. Donc voilà, je suis pas mal axé là-dessus.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à la librairie Le Chameau Sauvage aussi de nous avoir... Enfin, en tout cas, de nous avoir proposé aux éditions Sans Nom de venir. Merci à l'Espace Job de nous recevoir aussi. Moi je fais partie d'un collectif éditorial qui s'appelle les Éditions Sans Nom. L'idée c'était, enfin il y a 6 ans de cela, un peu plus 7 ans, de monter en fait, de s'auto-éditer entre nous parce qu'on avait eu quelques déconvenues. Alors ça, je prends 30 secondes pour le dire parce que je pense que ça fait partie un peu du débat. Mais en gros, on s'est monté suite à une déconvenue. Il y a eu en 2018, on a tous subi à plusieurs centaines d'auteurs, d'autrices, une arnaque dans le Luchonnet parce que en fait, se devait se monter un salon qui s'appelait les Estives de Luchon, les Estives littéraires de Luchon, qui en fait avait été monté de toutes pièces par un arnaqueur, enfin un escroc, qui finalement 3 semaines avant le début du salon en fait est parti avec la caisse. Enfin bon, je rentre pas dans les détails, mais c'est assez rigolo par ailleurs. Et donc du coup, bon, on n'a pas perdu grand chose, hein, mais il y a des gens quand même qui avaient booké leur billet d'avion depuis la Guadeloupe, la Guyane, ou depuis la Suisse. Donc en fait, il y a des gens qui se sont retrouvés en fait un peu dedans parce qu'ils avaient bloqué leur week-end pour ce salon qui était censé être un salon retentissant, puisqu'il y avait des têtes de gondole comme Daniel Picouli, comme Carole Kessler, comme Patrick Poivre d'Arvor. Et donc évidemment, ces gens-là, eux, ont eu leur billet d'avion ou leur billet de train remboursé par leurs éditeurs. Quand il s'agissait de petites, d'auto-éditions ou de petits auteurs et autrices comme nous, en fait, on s'est retrouvé un peu bloqué à savoir quoi faire. Et donc, on a remonté de toutes pièces un salon du livre, puisque ce week-end-là était bloqué pour un certain nombre d'entre nous. Et bon, qui a été un demi-succès, hein, bien sûr, puisque la mairie de Luchon était du coup un peu, rétive à nous recevoir. Mais on a quand même réussi à recevoir une cinquantaine d'auteurs et d'autrices. Il y a eu à peu près 300 passages de public sur ce week-end-là. Et fort de ça, en fait, on s'est dit qu'on voulait remonter des salons un peu itinérants comme ça. On l'avait appelé l'improbable salon du livre. Et puis, bon, bah, les salons étant ce qu'ils sont, le monde associatif étant ce qu'il est, le projet a dérivé petit à petit vers tout simplement une maison d'édition. Donc, qui s'appelle donc les éditions sans nom et qui a pour vocation en fait justement le thème de la bibliodiversité c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est créé, c'est-à-dire que on voulait absolument nous non seulement travailler avec des auteurs et des autrices qu'on peut voir, avec qui on peut discuter, avec qui on peut faire le cas échéant la fête, parce qu'on aime bien ça quand même, faut pas se voiler la face, avec qui on peut échanger à bâton rompu, etc. Éditer avec chez des imprimeurs qui sont de la région. Puisqu'on a imprimé auprès de Scopi, qui était une coopérative, qui est toujours une coopérative d'édition en route de Seyss, avec Escourbiac, qui est du côté du Tarn, ou Bruguière en ce moment avec Sprint. Bon, bref, donc on y publie avec eux, on imprime ici. Et on distribue à la force de nos poignets, puisque concrètement, on n'a pas de diffuseur-distributeur. Alors, on en reparlera sans doute dans le cadre de la question des freins et des menaces qui peuvent peser aussi sur la bibliodiversité. Voilà, donc on diffuse aussi auprès des libraires qui veulent bien prendre du dépôt, parce que tous les libraires ne prennent pas du dépôt. Il y en a qui... Parce que c'est un peu une charge aussi, il faut le dire. C'est un peu compliqué, ça fait du stock, etc. Bon, bref. Et merci à celles et ceux qui nous prennent d'ailleurs en dépôt. Donc voilà, tout ça fait qu'on voulait faire vivre cet écosystème en fait de à la fois d'auteurs et d'autrices, à la fois d'imprimeurs, à la fois de librairies dans lesquelles on pouvait proposer aussi des actions type mise en scène, lecture, etc. Parce qu'une bonne partie de notre collectif aussi est issue des spectacles vivants. Donc voilà, on est un peu aussi avec plusieurs casquettes, comme le disait Camille. Voilà. Moi, je m'appelle Guillaume de Gracia.
Et on a dit que dans l'ordre de présentation, on allait poursuivre avec les personnes qui sont plus en charge de la diffusion du livre. Donc je suis Ovi Gananian, je suis bibliothécaire à la Média Ludo Audi-Sud à Blagnac. Mais je viens en tant là aujourd'hui que vice-président, un des deux vice-présidents du comité régional de l'Association des bibliothécaires de France, qui est une association nationale qui existe depuis 1909, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1969. Dont le rôle est, comme toute autre association professionnelle, de structurer un réseau professionnel, de donner une identité, des orientations sur ce que c'est qu'une médiathèque, d'être un relais aussi, un partenaire du ministère de la Culture. Dans les dernières réalisations de l'Association des bibliothécaires de France, il y a eu notamment d'avoir été un des inspirateurs, les inspirateurs de la loi Robert, de la loi qui a été votée sur les bibliothèques en 2021. Et puis c'est une structure qui forme aussi les bibliothécaires. Et puis, bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui structure un réseau de professionnels. Donc, je suis très heureux moi aussi d'intervenir, très heureux d'avoir été invité par le collectif Job sur ces questions-là de résistance face aux attaques entre la bibliodiversité. Les bibliothèques en général ont un rôle essentiel à jouer, comme les autres personnes qui sont réunies ici aujourd'hui. Donc j'en dis pas plus, on va avoir le temps d'échanger là-dessus.
Bonjour, moi je m'appelle Aude Farès, je suis une des deux libraires, je suis une des gérantes de la librairie Le Chameau Sauvage, qui est située aux minimes barrières de Paris. C'est une librairie généraliste indépendante qui s'est créée en fin 2019. On a ouvert en novembre 2019. On a fermé nos portes 3 mois après. C'était sympathique, mais on est toujours là. Voilà, donc Le Chameau Sauvage, librairie généraliste indépendante. Et puis, on a cherché à faire un lieu le plus convivial possible pour faire en sorte que les gens osent entrer en librairie. Et on a pour ça aussi une petite partie café avec un petit jardin, une petite partie café-bar. Et on est partenaire des rencontres du papier, du livre et de l'espace Job depuis notre création, quasiment. Disons que si on enlève l'année 2020 qui était spécifiquement spécifique, on est partenaire depuis notre création de ces rencontres du papier et du livre. Donc merci à Job de nous avoir invités. Je vous propose qu'on rentre dans le cœur du sujet. Camille l'a dit en introduction, je peux le rappeler pour les personnes qui viennent d'arriver. On est là pour parler de la bibliodiversité, donc qui est cette diversité de livres, d'auteurs, de formats, d'idées, de langues, dans le monde du livre. C'est aussi, comme il le disait, un écosystème qui réunit l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et diffuseurs que sont les bibliothèques et les imprimeurs également. Et tous ces maillons sont complètement interdépendants. C'est important de le rappeler, puisqu'on va parler aussi de comment résister à un certain nombre de choses en ce moment. Et la résistance, elle peut se faire aussi de manière commune, parce qu'on est tous interdépendants. Pourquoi je parle de résister ? C'est que la biodiversité semble menacée aujourd'hui en France. Pour quelques raisons, enfin en tout cas de mon point de vue de libraire que je vous propose d'évoquer et qu'on discutera ensemble. Et pourtant, la biodiversité est pour moi un des garants de la démocratie quelque part, puisque c'est biodiversité, ça signifie liberté de circulation des idées et des valeurs. Et si cette biodiversité est menacée, ça peut être problématique. Pour moi, la menace principale, mais on est d'accord entre nous, c'est que actuellement dans le monde de l'édition, il y a un phénomène de concentration très très important qui s'opère, notamment depuis un certain nombre d'années, mais là, ce qui fait exploser en ce moment la machine, c'est l'arrivée de Bolloré, de Vincent Bolloré, qui a pris la tête du groupe Hachette en 2024. Pour mémoire, il était déjà à la tête d'un autre groupe de distribution qui s'appelait Editis. Et quand il a voulu acquérir Hachette en 2024, la Commission européenne lui a interdit, parce que là, on était quasiment en situation de monopole dans le monde de l'édition, donc l'a obligé à faire un choix. Il a revendu Editis pour être maintenant à la tête du groupe Hachette. Mais le groupe Editis est très important aussi. Il est aussi piloté par un autre milliardaire qui s'appelle Daniel Kretinsky. J'ai toujours un peu de mal à prononcer son nom. Ce qui fait que le monde de l'édition aujourd'hui en France est dans les mains principales de deux milliardaires, dont Bolloré qui est quand même le principal. Et à eux deux, ils concentrent 50% de l'édition en France, quasiment, voire plus de 70% du scolaire. Toutes les éditions scolaires sont dans les mains de ces deux éditeurs-là. Et globalement, le monde du livre, on peut dire que c'est à 90% qu'il est concentré dans les mains de quatre gros distributeurs. C'est ça, vous conviendrez à peu près, quoi. Mais bon, Bolloré et Kretinsky, à eux deux, 50% du monde de l'édition. Et pour nous, acteurs de la chaîne du livre, c'est quand même un souci, puisque qui dit concentration dit renforcement de leur capacité à contrôler le débat public. Et là où c'est problématique, c'est que ces personnes-là possèdent, au-delà de ces groupes d'édition, ils possèdent aussi leur propre système de diffusion. Alors la diffusion, quand on parle de diffusion dans le monde du livre, c'est le fait de faire connaître les livres auprès du public et auprès des libraires et des bibliothécaires d'abord, pour ensuite toucher le public. La diffusion est une grosse partie de la chaîne du livre. Et ils possèdent aussi leur propre système de distribution, c'est-à-dire l'acheminement physique des livres sur les points de vente. Ils possèdent aussi les réseaux d'information et de communication qui permettent d'accentuer cette diffusion. Ce qui fait que les petites maisons d'édition indépendantes peuvent difficilement lutter contre ce système-là. Elles n'ont pas les moyens seules d'assurer leur propre système de distribution, un système alternatif. Donc c'est pour nous la première source de danger qu'il existe actuellement pour la biodiversité. Pour moi, en tant que libraire, j'en vois une deuxième qui est économique, puisque la situation économique est très très rude pour les librairies en France aujourd'hui. Bon, elle l'a toujours plus ou moins été, mais là, clairement, donc heureusement, il y a toujours des librairies, de nouvelles librairies qui se créent en France, mais chaque année, il y en a encore plus qui disparaissent. Il faut pas oublier, c'est que en fait le taux de rentabilité d'une librairie, c'est le taux de rentabilité le plus faible de tous les commerces de France, c'est 1%. Donc pour une librairie, pour qu'elle survive, il faut qu'elle vende beaucoup, 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 beaucoup de livres pour juste tenir. Je parle même pas de faire du bénéfice, parce qu'il y a quasiment pas de bénéfice en librairie. Le problème actuellement, c'est que les gens lisent moins, d'une part, enfin les ventes de livres baissent, tout simplement parce que une partie des gens lisent moins, mais aussi parce que le pouvoir d'achat des gens est en baisse. Donc forcément, c'est mathématique. Et de l'autre côté, nous, on a une explosion des charges, mais qui concerne bien sûr tous les acteurs en ce moment. Donc voilà, c'est mathématique. Et le problème, c'est qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un très très bon maillage de librairies indépendantes grâce à la loi Lang. J'y reviendrai, pour moi, c'est la troisième menace possible sur la loi Lang. Et sans les librairies indépendantes, c'est aussi la biodiversité, pour moi, qui est menacée, puisque les librairies indépendantes font le choix de faire rentrer tel ou tel livre chez elles. C'est elles qui choisissent si elles mettent en avant tel auteur ou telle autrice ou telle maison d'édition par rapport à une autre. Contrairement à d'autres structures qui ont des centrales d'achat, type FNAC, citons-les par exemple, où elles ne décident pas forcément de ce qu'elles mettent sur table. Nous, on choisit chacun des bouquins qu'on fait rentrer. On viendra un peu plus sur ce, éventuellement dans le détail sur comment on fonctionne, mais donc l'existence de librairies indépendantes en France est aussi un garant de la biodiversité, et si elle est menacée, ça peut être problématique. Et troisième gros point, justement pour faire le lien, la loi Langue est un système qui nous protège toutes et tous, acteurs de la chaîne du livre. La loi Langue, c'est, je le rappelle, depuis 1981, le prix du livre est unique en France. Que vous l'achetiez sur Internet, en grande surface ou en librairie indépendante, vous le paierez le même prix. Or, cette loi Langue, c'est pas parce qu'elle existe depuis 30 ans qu'elle sera toujours là. Un certain nombre de partis politiques souhaitent la remettre en question. Or, si elle disparaît, c'est tout un système qui s'écroule. Pour donner un exemple, le Royaume-Uni, bizarrement, avait cette loi sur le prix unique depuis le début du XXe siècle. En 1900, il y avait déjà une loi sur le prix unique du livre. Cette loi a disparu en 1995. Entre 1995 et aujourd'hui, plus de 50% des librairies ont mis la clé sous la porte. Et aujourd'hui, le système du livre au Royaume-Uni est très particulier, quoi. C'était pour moi les menaces principales qui pesaient sur la bibliodiversité, mais je peux je ne sais pas qui veut enchaîner pour...
Les menaces là, donc, du coup sur la partie diffusion, elles sont très sensibles, sur la partie édition aussi. Moi je peux parler un petit peu avec la casquette d'imprimeur, évidemment toutes les matières premières augmentées, notamment depuis le Covid, donc évidemment le papier aussi, il y a une grosse crise du papier en 2020, donc liée aussi au Covid, parce qu'il y a eu beaucoup de bois de construction, beaucoup de bois qui servait à faire de la pâte à papier, qui est devenu du bois de construction, etc. Et du carton, les deux. Et puis c'était mondial, donc c'était un petit peu compliqué de gérer. Il y a eu jusqu'à 170% d'augmentation du tarif du papier, je ne sais pas si vous imaginez, en 2 ans. Nous, on recevait tous les mois des courriers à l'imprimerie, genre « Ah, on va augmenter nos tarifs ». Enfin, c'est devenu une denrée rare. Donc, mathématiquement, quand on est éditeur, après, on est obligé d'augmenter le tarif des livres. On est obligé aussi de réfléchir à la variable d'ajustement. Ça veut dire, souvent, quand on est éditeur, on pense « Bon, où est-ce que je vais faire une économie ?» Alors, pas sur moi, parce que je suis bénévole, pas sur le local, parce qu'il faut bien que je stocke les livres. Pas sur la diffusion, la distribution et la librairie, parce que on a des contrats et on les honore. Et puis je pourrais détailler pourquoi c'est important en ce qui nous concerne de passer par la diffusion, distribution et la librairie. Et au final, tout le monde fait tant pis, je vais aller imprimer en Lettonie, puisque c'est moins cher et ils bossent bien en plus. Et donc c'est une autre question pour garder une sorte de rentabilité, pour que le livre ne soit pas à des prix prohibitifs, parce que plus on augmente le prix des livres, plus ça devient un produit de luxe, plus on s'adresse à un certain type de population, et plus on a un problème de démocratie, à mon sens. Donc on a vraiment quelque chose qui se nourrit. Il y a un problème, c'est que la mèche s'allume par les deux bouts, et là, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est sur la partie imprimeur liée à l'édition, mais peut-être que tu veux compléter sur l'édition.
Oui, en fait, c'est vraiment la quadrature du cercle, parce que il faut effectivement payer l'imprimeur. Alors, si on veut rester effectivement local, je vais vous donner un ordre d'idée, mais les copains de Scopi, donc c'est une coopérative qui vient de I34, pour celles et ceux qui ont connu I34, enfin c'est les anciens travailleurs de chez I34 qui ont repris donc une coopérative, l'imprimerie 34, oui. Ont refondé une entreprise qui s'appelle une coopérative donc qui s'appelle Scopi. Donc nous, pour des livres qu'on vendait, dont on avait l'intention de vendre ou qu'on continue à vendre 10 €, on s'en sortait aux alentours de 3 € à l'exemplaire, au tirage. Alors, sur des petits tirages de 150, 200 exemplaires, mais on se retrouve quand même avec quelque chose aux alentours de 3 € le prix de revient. Donc si on rajoute à ça les 35% dont on a parlé, qui sont entre 30-35% les prix des libraires. Alors les 35%, évidemment, comme l'a dit eux tout à l'heure, ça ne revient pas immédiatement à eux directement, on est bien d'accord. S'il faut rajouter à ça le prix du diffuseur et du distributeur, et l'auteur ou l'autrice qu'il faut bien rémunérer, alors on se rend compte que si on veut maintenir des prix bas, ça devient tout de suite très compliqué. Et nous, on a été obligé de faire des choix. Effectivement, alors on a réussi à ne pas partir en Lettonie, mais les amis de Scopy avec qui on travaillait jusqu'au début de notre aventure, on a dû basculer vers donc Spring qui proposait des prix nettement moins chers. Et il faut rajouter à cela que nous, on est éditeurs, mais en fait, on travaille tous à côté de ça. Donc, en fait, on est un collectif éditorial, mais on a tous des métiers qui nous permettent, en fait, de nous consacrer à ce travail éditorial sans avoir une pression, de fin du mois, parce que, par ailleurs, évidemment, on a des salaires pour la plupart d'entre nous, tous. Il y a cette question-là aussi qui est peut-être en... Quand il y aura une partie résistance aussi dans cette discussion, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte aussi, c'est le modèle de l'éditeur qui peut-il continuer à être un modèle, comme tu le disais, uniquement, enfin, est-ce que on risque pas de basculer vers du bénévolat uniquement, quoi.
Même audio, une mémoire sonore.
Alors, je souscris entièrement et je ne vais pas ajouter énormément de choses. Enfin, sur ce qu'ont ajouté dans les précédentes prises de parole, vous connaissez vos métiers beaucoup mieux que moi. Le phénomène de concentration dans l'édition, il est pas nouveau, il s'est seulement aggravé ces derniers temps. Et puis, disons que les grands groupes ont changé de main. Mais il y a 20 ans déjà et plus, on alertait déjà des éditeurs comme André Chiffrin dans l'édition Sans Éditeur sur le fait que les seuils de rentabilité étaient très forts, que c'était déjà un baillon pour une diversité éditoriale qui existait beaucoup mieux avant. Ce qui est nouveau, c'est l'offensive réactionnaire et c'est la façon, l'interventionnisme, faire des maisons d'édition qu'on acquiert, des tribunes politiques pour une révolution ultra-conservatrice qu'ils appellent de leur vœu. Pour les bibliothèques, le risque, il est dans les contraintes financières qui pèsent très lourdement sur les collectivités territoriales, avec les baisses de recettes, fiscalité notamment, et les baisses de dotation de l'État, et l'augmentation des coûts de la vie, parce que c'est pareil pour tout le monde, pour les villes aussi, pour les collectivités territoriales plutôt en général aussi. Et donc, des coupes budgétaires franches, vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé à Toulouse ces derniers mois, et ça pèse lourdement sur la capacité d'agir des bibliothèques et donc sur la bibliodiversité. Et on va pouvoir parler de comment on résiste à tout ça, sauf si vous voulez ajouter quelque chose.
Si j'ai un dernier truc quand même qu'on n'a pas évoqué, donc oui, l'offensive réactionnaire, c'est quelque chose de très important, mais il y a quand même quelque chose qui existait avant l'offensive réactionnaire, c'est la surproduction. En bande dessinée, il y a par exemple, parce que je parle d'un champ que je connais, il y a 30 ans, il y avait 600 nouveautés par an. Là, cette année, on a passé le seuil de 7000. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous imaginez une librairie de la taille de cette pièce. Est-ce qu'on peut rentrer 7000 nouveautés, même si c'est étalé sur toute l'année? C'est absolument impossible. Le truc, c'est que forcément, on est face à des grosses machines qui arrivent avec des forces de frappe pas possibles, qui arrivent avec des astérix en palette, là, comme ça, hop, ils posent la palette directe. Et voilà. Et puis, après, ils voient un petit livre de Super Loto Édition, par exemple, et ils font « Ah, je vais en prendre un ». Puis, il est perdu au milieu du reste, et puis, il ne se vend pas. Et puis, comme on imprime avec des techniques d'impression artisanale, il s'abîme, et puis hop, il revient abîmé, et du coup, il disparaît du circuit. Et donc ça, c'est quand même un gros, gros problème. Et du coup, une des solutions pour y remédier, c'est justement de laisser tout le pouvoir aux libraires et aux bibliothécaires, justement dans le choix des livres, et de ne pas se laisser berner justement par les gros diffuseurs, etc. Et puis aussi... réfléchir à comment endiguer cette surproduction qui, alors même s'il y a beaucoup de petits éditeurs et tout ça, la surproduction, elle est quasi spécifiquement le fait des gros éditeurs. C'est eux qui en mettent partout parce qu'ils savent qu'il y a un principe de la diffusion, c'est plus on en met, plus ça crée un circuit, plus ça crée un flux, plus on inonde, et même s'il y a beaucoup de retours derrière, c'est comme si on était à crédit en permanence. Mais du coup, on avance, c'est une fuite en avant permanente. Et quand on ne fonctionne pas comme ça, on ne peut pas rivaliser. C'est vraiment David contre Goliath. Donc voilà, ça, c'est quand même un sujet assez important. Voilà.
juste une vraie politique d'occupation de l'espace, en fait. Où concrètement, en fait, on va avoir sur des linéaires entiers des, bah, du plomb, du faillard, du hachet, du je ne sais quoi, qui fait que concrètement, bah, quoi, le choix se réduit parce que forcément, on va donner systématiquement à la même personne quand on achète, quoi. Et les petits éditeurs, forcément, sont noyés là-dedans.
C'est vrai que comment on résiste à tout ça, et notamment à l'extrême droitisation, en plus de ces grosses machines qu'on sent de plus en plus, hein, qui est même ouverte. Faut avoir en tête que Fayard, maintenant, qui appartient au groupe Bolloré, à la tête de Fayard, il y a l'ancienne éditrice de Zemmour. Voilà, c'est ça, Bolloré, quand même, derrière, et c'est ça. Donc, toutes les maisons d'édition qui sont distribuées par Hachette ne sont pas d'extrême droite, on est bien d'accord. N'empêche que faut avoir en tête que c'est ça. Et comment on résiste par rapport à tout ça? Comment on fait notre choix? Ben c'est une question quotidienne. Nous, justement, j'allais dire que la manière dont on résiste en priorité face à cette droitisation absolue, etc., c'est justement parce qu'on fait des choix. Et c'est pour ça que c'est le maintien d'un maillage de librairies indépendantes en France, pour moi, est primordial. C'est que les libraires font rentrer, comme je le disais tout à l'heure, les livres qu'ils souhaitent dans leur librairie. Maintenant, c'est pas si simple que ça, parce que nous, on aimerait bien, on a des valeurs, évidemment, quand on fait rentrer les bouquins, c'est des bouquins auxquels on adhère, soit sur la thématique, soit parce que ça correspond aux valeurs qu'on souhaite défendre dans notre librairie. Et je vois des gens dans la salle qui nous fréquentent régulièrement, je pense qu'ils savent un peu quelle est notre orientation, rien qu'en regardant nos tables. Maintenant, c'est très difficile alors, autant c'est en librairie qu'on trouvera les petites maisons d'édition, autant pour nous, petites librairies de quartier, où on doit répondre aux besoins de notre clientèle et aussi à nos besoins économiques, le choix n'est jamais très simple parce qu'on est obligé quand même d'avoir ce que j'appellerais des locomotives. Les locomotives, c'est les bouquins que vous allez retrouver partout. Alors, bah, notamment les Astérix, mais pas que, même en littérature, on peut pas se permettre de ne pas prendre le dernier Amélie Nothomb quand elle en sort un, dans la rentrée littéraire, qui pourtant, il y a 500 bouquins qui sortent, on aimerait bien vendre autre chose que du Amélie Nothomb, maintenant, si on l'a pas, les gens vont finir par plus venir chez nous, c'est clair. De toute façon, ils vont nous le demander, mais alors après, on a de la chance, comme on peut pas tout avoir, déjà parce qu'on est tout petit et qu'on peut pas pousser les murs, les gens, nos clients, ils sont adorables et ils patientent. Ils patientent, ils attendent qu'on commande. Ils pourraient très bien aller ailleurs. À Toulouse, c'est pas le nombre de librairies qui manque, hein, donc, mais j'ose espérer que notre clientèle nous est fidèle et je pense qu'elle l'est. Donc, ils commandent. D'accord. Sauf que c'est aussi une question de... Si on ne l'a pas tout de suite, on rate quand même des ventes. Et nous, c'est les ventes de ces locomotives-là qui nous permettent ensuite d'avoir la trésorerie suffisante pour pouvoir proposer d'autres choses. Et pour la question du Astérix, c'est exactement la même chose. Moi, idéalement, j'aimerais boycotter tout ce qui vient d'Hachette. Mes valeurs, c'est celles-là. En revanche, il y a mes valeurs d'un côté et il y a ma survie. Pour me battre, il faut que je sois debout. Si j'ai pas de Astérix en boutique, avec le nombre de familles qui viennent chez nous pour chercher le cadeau d'anniversaire pour le petit copain l'après-midi, et c'est maintenant qu'il le faut parce qu'il a oublié de me le dire, et c'est cet après-midi l'anniversaire, etc. Il me faut le dernier One Piece en manga ou je sais pas quoi. Si j'ai pas ça, les gens ils vont ailleurs la première fois, ils vont ailleurs la deuxième fois et ils reviennent plus. Donc je suis obligée moi d'avoir ça pour me permettre de proposer autre chose. Donc c'est jamais simple. C'est un équilibre constant, économique, et parfois simplement, attention, on commande certes chez Hachette, mais on fait nos choix chez Hachette. Je parlais tout à l'heure, je citais l'exemple d'une bande dessinée qu'on aime beaucoup, qui est très engagée sur la question du genre, de l'identité. Elle s'appelle Peau d'homme, pour ceux qui la connaissent. Elle est distribuée par... l'éditeur, c'est Glénat, qui est rattaché à Hachette. Moi, je peux pas me permettre de ne pas avoir Peau d'homme chez moi. C'est un exemple, mais j'en ai plein d'autres. Ou Douce Dibongo, qui est une autrice féministe engagée, pour l'instant, elle était distribuée par Hachette. Donc, on choisit ce qu'on fait rentrer d'Hachette. Si vous venez chez nous, par contre, on est d'accord, vous ne trouverez pas le dernier Zemmour, le dernier Bardella, le dernier De Villiers. Oui, la question du choix, c'est la première manière de résister. Après, nous, on résiste autrement, mais je vais peut-être passer la parole d'abord à mes collègues sur comment on résiste.
Non, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais c'est vrai que je me sens qu'il y a c'est pas du tout anodin ce que tu dis. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement qui se pressentent quelque chose, une atmosphère, une ambiance qui fait qu'on va pas forcément se ouvrir aussi franchement, poser les choses de manière aussi franche que ce qu'on aurait fait il y a 15-20 ans en arrière. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Après, je vais rebondir sur le fait que tu sois documentaliste. Et bon, moi, je suis prof aussi, et c'est vrai que pour la question des petites résistances ou des micro résistances, il y a la question tout tout simplement, et ça pour le coup on peut tous l'être et toutes l'être autour, enfin ici, c'est que enfin on est la question de la prescription, quoi, c'est-à-dire que le fait d'avoir des jeunes ou des moins jeunes avec qui on peut discuter tous les jours suppose que derrière on puisse effectivement leur parler de bouquins qu'on a aimés, de, et cette question là elle me semble qu'elle est importante parce que il y a pas forcément enfin, pour le voir en tant que prof depuis quelques années quand même, la question de la remédiation et le fait que des parents puissent avoir adoré des bouquins et avoir transmis cet amour-là à leurs enfants, ça se fait pas forcément aussi facilement pour des gens de ma génération. J'ai 45-46 ans, donc des gens qui ont mon âge ne sont pas forcément être aussi simplement dans la transmission que ce que mes parents ont été avec moi et m'ont naturellement mis entre les mains, je sais pas moi, du Hugo, du Tolstoï, etc., quoi. Bon, donc il y a cette idée là, mais on peut continuer à égrener les formes de résistance ou de résistance qu'on peut voir.
Moi je voulais rebondir sur l'équilibre. Alors moi je comprends bien qu'on puisse pas se couper évidemment de gros hits de librairie pour faire vivre l'essentiel de la librairie et à côté de faire vivre des petits livres. Et il faut bien comprendre que dans le cadre d'une maison d'édition où on a l'ambition de au moins payer des locaux, enfin le loyer des locaux, voire de peut-être se rémunérer un jour, on a la même notion d'équilibre, à savoir que dans l'idéal, on a un livre qui paye les autres livres bizarres que pas grand monde va acheter, mais dont on est hyper content de faire. Moi, ça a été des fois le cas. Alors, je voudrais quand même saluer le fait que, peut-être on rebondira là-dessus après, mais on a été souvent aidé avec la région Occitanie, Occitanie Livre et Lecture, là, qui vient d'être phagocyté dans un gros truc de l'agence culturelle maintenant. Mais à la base, il y a pas mal de livres, donc un peu bizarres, un peu entre deux eaux, pas vraiment bande dessinée, des fois un petit peu et tout ça, qui sont aidés parce que on montre tout l'intérêt du projet. Il y a un jury qui statue, un jury de professionnels. D'ailleurs, j'ai fait partie à un moment du jury de la Bourse de création littéraire de la région Occitanie. Donc, pour tout type de livre, tous les auteurs qui envoyaient leurs projets pour essayer de se faire avoir une bourse d'écriture. Et donc, nous, on était un jury pour voir, pour étudier la pertinence des projets, etc. En dehors de toute considération économique, justement. Et ça, c'est hyper important. Et donc, dans l'idéal, quand on est éditeur, on va avoir une petite locomotive maison. Qui va nous aider. Donc tout l'enjeu, c'est de la trouver. Nous, on l'a pas encore. Peut-être on l'aura jamais, je sais pas. Mais moi, j'ai travaillé chez un éditeur qui avant venait du Tarn, qui est sur Bordeaux maintenant, qui s'appelle Les Requins Marteaux, et qui a eu un Fauve d'Or en 2009. Et donc le Fauve d'Or, ça a servi de locomotive, ce qui a permis au reste de la maison d'édition de se développer. Et j'ai des amis qui ont une maison d'édition à Montpellier qui s'appelle Six Pieds Sous Terre et qui ont édité un certain Fab Caro pendant 20 ans jusqu'à ce qu'il y ait un Zaï 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 qui sorte. Et puis, quand la question qui a été posée aux éditeurs, alors qu'est-ce que ça vous a fait de faire un livre vendu à 350 000 exemplaires? Ils ont dit, le fondateur a pu se salarier au SMIC. Voilà. Donc voilà. Et du coup, c'est une question d'équilibre parce que du coup, ça leur permet de construire le reste du catalogue. Et Fab Caro, derrière lui, il y a tous les Fab Caro qui se vendent. Et puis aussi, il y a tous les livres du catalogue qui se vendent. Il y a toute la maison d'édition qui se vend vachement plus. Donc voilà, c'est une notion de résistance. Ça se passe beaucoup en réfléchissant sur une manière. Et on ne peut pas juste être hyper radical en disant « Moi, je vais faire que des livres de poésie graphique. » Et puis tant pis s'ils ne comprennent pas. Il faut arriver un petit peu à mettre un peu d'eau dans son vin sur certains trucs. Ce qui permet à côté de faire des trucs très... très tranché, justement.
Alors, en bibliothèque aussi, la question de l'équilibre des collections se pose, mais différemment. Une bibliothèque n'a pas à être rentable au sens où on l'entend d'un point de vue commercial, mais enfin, elle a quand même à revendiquer un certain niveau de fréquentation, elle a quand même à revendiquer un certain niveau de taux d'emprunt sur les collections. Et donc, pour continuer à lutter, il faut qu'on reste debout, nous aussi. Et donc on fait exactement comme en librairie, comme quand on construit un catalogue dans une maison d'édition, on prend la grosse cavalerie, si vous voulez, pour pouvoir aussi défendre des fantassins. Je ne sais pas si la métaphore guerrière elle est très... Mais si, puisqu'on est en résistance. Donc pour pouvoir défendre des ouvrages que nous aussi on veut pouvoir promouvoir et qui sont moins connus du grand public, on fonctionne exactement de la même manière. Et puis par toutes les actions qu'on peut entreprendre, je sais pas, je vais donner des exemples pour être très concret. On prépare je ne vais pas parler de la, bon, si bref, peu importe, à la médiathèque de Blagnac, on prépare une table, les livres censurés aux États-Unis, dans les écoles et dans les bibliothèques, dans certains États en tout cas, pour avoir un discours voilà, sur la liberté d'expression et sur la bibliodiversité. On fait des tables où on met en valeur les éditeurs indépendants, enfin bon bref, des auteurs qu'on aime, des autrices qu'on aime et qu'on veut défendre et qui sont beaucoup moins présents en tête de gondole. Alors, cette question-là de l'équilibre dans les collections, elle se pose aussi sur la question du pluralisme, mais complètement différemment. On ne peut pas assumer, et puis, enfin, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on ne souhaite pas complètement assumer une ligne éditoriale en bibliothèque. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'une librairie. On est financé par tous les administrés de la collectivité, donc il faut un moment qu'on se mette en tête, qu'on parle à tout le monde aussi. Donc, il y a toujours eu dans les bibliothèques l'idée que on défend des valeurs de pluralisme qui s'appuient sur le devoir de neutralité d'un service public et que donc tout curseur politique doit être représenté, que toutes les idées doivent être représentées d'un bout à l'autre donc, du champ politique. Cette question elle a été débattue au dernier congrès de l'Association des bibliothécaires de France en avril dernier, le pluralisme en bibliothèque, et quand même monte, elle est de plus en plus difficile à tenir cette position de principe. Sur l'idée que je vais résumer comme ça, quand on est neutre dans une société injuste, on prend acte d'une réalité injuste, et donc on n'est pas neutre en fait. Et on va prendre le camp des dominants, on va prendre parti finalement, de fait, pour les personnes qui assoient un rapport de domination par rapport à d'autres. Donc, très concrètement, est-ce qu'on prend le dernier Zemmour ? Est-ce qu'on prend le dernier Bardella ? Est-ce qu'on prend le dernier Philippe de Villiers ? Il n'est pas question de donner une réponse ici, là, parce que je serais bien embarrassé. La position de l'association, déjà, elle est très clairement affichée pour le plus grand pluralisme possible, mais des tensions existent au sein de l'association et tout le monde n'est pas sur la même ligne. Ce qui est certain, c'est que les bibliothèques sont encouragées par l'association à formaliser leur projet documentaire, à écrire et à faire voter par les élus les lignes qui sont suivies par l'établissement sur le développement d'une politique documentaire, mais bon, bref, en fait, les orientations qu'on donne aux collections, aux fonds qu'on propose au public. Et donc, si à un moment, on décide de tracer une ligne, on l'écrit, on le fait voter, et ça s'applique. Donc, il faut juste formaliser les choses par une charte des collections, par exemple, c'est la pratique, et c'est comme ça qu'on essaye de savoir comment on se situe sur ce débat-là.
Peut-être rebondir sur le simple fait aussi qu'on est présent dans un lieu qui pourrait s'apparenter aussi à un lieu qui va, parce que va médiatiser une librairie comme Les Chameaux Sauvages, parce qu'elle va médiatiser une maison d'édition comme Anacharsis par exemple, dont vous avez certainement vu les livres dans le petit salon. C'est un lieu aussi qui pourrait s'apparenter à ce qu'on pourra appeler un lieu de résistance. En plus, historiquement, à Toulouse, dans le patrimoine toulousain, paradigme presque. On a tous vu les banderoles de papier dans les manifestations des ouvriers de Job depuis je ne sais plus combien d'années maintenant.
Alors, c'était dans les années 90 et c'était Bolloré. Ça appartenait à Bolloré.
Mais après, juste pour préciser qu'effectivement, il y a quand même plein de choses qui se font. Moi, j'enseigne dans une ville, dans le Gers, qui va voir là une librairie indépendante se monter. Donc, comme tu le disais, ça se monte. Bon, il y en a qui disparaissent aussi. Et simplement, il y a quand même des salons, il y a des lieux. Moi, je pense qu'il y a la question de la territorialité aussi de cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a des lieux, par exemple, je vais en citer un, puisque le samedi prochain, 22 novembre, il va y avoir un salon du livre qui va se tenir dans un hangar qui s'appelle le hangar de la Sépière, que vous connaissez peut-être du côté des arènes derrière en fait, l'hippodrome. Donc voilà, c'est un lieu qui est autonome, c'est un lieu qui est dédié à des soutiens divers et variés. Hein. Enfin, je veux dire, la semaine dernière, il y avait un salon de la pédagogie freinée, par exemple, dans ce lieu-là. Donc la semaine prochaine, il y aura un salon autour de la littérature plutôt libertaire. C'est un lieu qui est autonome et qui ouvre ses portes largement et qui, parce qu'il est autonome, sans subvention, etc., peut se permettre aussi de proposer des événements qui sont à côté, on va dire. Et ça existe quand même dans beaucoup d'endroits de France, heureusement, encore aujourd'hui.
Même audio ? Une mémoire sonore ?